Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers pour un nouveau pédalo. Au programme de ce soir, nous parlerons musique avec une interview de Guillaume Goubier, musicien polyvalent que l'on connaissait dans d'autres projets et qui revient en solo sous le nom de We've Been There Before, avec un EP sorti récemment, Ifs and Ives. Alexis a quant à lui discuté avec Amandine Portelli, co-créatrice de l'atelier d'art graphique Houhouhou, qui propose résidence de création, formation et intervention. Ça sera pour la deuxième partie de cette émission. Mais avant de commencer, juste un petit mot sur un sujet qui nous tient à cœur. Vous le savez peut-être, aujourd'hui c'est le Blackout Tuesday, journée d'hommage silencieuse pour George Floyd, assassiné par un policier à Minneapolis, journée qui a émané de l'industrie musicale avant de se propager un peu partout. Si nous n'avons pas décidé d'interrompre notre antenne, comme d'autres radios ont pu le faire, nous avons quand même une pensée pour toutes les victimes de violences policières aux États-Unis comme en France. On a pu le voir encore récemment de ce côté de l'Atlantique, que ce soit pendant le confinement ou avec la levée de boucliers qui a fait suite aux propos de Camélia Jordana, le sujet reste plus que compliqué à aborder, surtout dans les grands médias. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet l'analyse qu'on a fait à Crimed. Mais il est pourtant indispensable de ne pas fermer les yeux sur la situation et ses conséquences. Reconnaître le fait qu'il y ait des violences policières, ce n'est pas dire que tous les policiers sont violents, mais c'est reconnaître qu'il y a un problème systémique qui convient d'être résolu, que ce soit au niveau de la formation des policiers, des directives qui leur sont données ou de l'impunité qui peut avoir lieu en cas de violence. Dire qu'il ne s'agit que d'actes isolés, ça ne permet pas de faire avancer les choses, et au contraire, ça permet à des situations similaires de se reproduire, et l'on voit bien que dans ce cas de figure, la violence entraîne la violence. Il est donc temps de trouver un moyen de libérer la parole afin de réfléchir à des solutions qui nous permettront de rétablir la confiance envers les forces de l'ordre et d'avancer ensemble vers une société plus apaisée. Nous avons donc une pensée pour les victimes de violences policières et leurs familles. Je vous laisse maintenant écouter cette émission. Je suis en compagnie de Guillaume Goubier, musicien angevin que vous avez peut-être déjà vu accompagner d'autres artistes au sein des groupes Hunger Thorsen ou Glass. On le retrouve désormais également au sein d'un projet solo We've Been There Before, dont le premier EP Ifs and Ives est sorti le mois dernier. Si l'influence musicale principale reste la folk, on y retrouve également des touches d'autres sonorités, le tout marqué par une voix toujours très caractéristique. Alors l'EP est sorti récemment, mais j'ai lu que les morceaux les plus anciens dataient d'il y a quelques années. Comment ça s'est passé? C'est des compositions qui avaient été faites en marge de tes autres projets et qui ne s'intégraient pas dedans?
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est un dossier qui regroupait d'abord les compos qui étaient trop folk pour une guerre personne. Et finalement, j'ai commencé à rajouter peu à peu des compos plus cohérents. Enfin, en lien avec celle-là et à ouvrir un petit peu le projet, mais effectivement au départ c'est un peu un répertoire de choses perdues quelque part que j'ai peu à peu développé. Ouais.
Ça représente quoi à peu près entre les morceaux plus anciens et ceux qui se sont rajoutés ces derniers temps? Quand est-ce que le projet a commencé à prendre un peu plus forme?
Je dirais il y a 2 ans peut-être, quasiment à peine 2 ans, l'été 2017, où j'ai commencé à avoir suffisamment de matière pour me dire qu'il y avait peut-être quelque chose à faire.
Le fait de l'avoir sorti là, c'est que tu as pu profiter des derniers mois de la période de confinement pour travailler plus dessus, ou dans tous les cas la sortie était prévue et ça s'était fait un peu en amont l'enregistrement?
Non, la sortie n'était pas exactement prévue précisément, mais en tout cas j'arrivais au bout du travail, en tout cas de cette phase du travail, et il était logique, je voyais pas de raison de repousser plus la sortie, finalement.
Alors c'est présenté comme un projet qui à la base était purement folk et sur lequel est venu se rajouter des touches plus noise. Ça s'est fait à quel moment un peu du processus, cette envie de rajouter un peu d'autres choses?
À un certain moment, je me suis mis à tourner en rond sur le tout folk. Peut-être peur de pas assumer complètement aussi quelque chose de très très brut. Et puis, par le hasard des compos, j'ai notamment le morceau, sans doute le morceau le plus noise, est arrivé assez tôt, qui est un espèce de déchet de répète de plan de guitare que je jouais dans une répète de je sais plus quel groupe, entre deux morceaux, et que j'ai gardé, et qui m'a lancé vers ce côté plus noise.
L'aspect folk, alors c'est vrai pour toutes les musiques, mais c'est un genre qui a des codes. Tu disais que tu n'assumais peut-être pas que ça soit complètement folk. Qu'est-ce qui t'inspire finalement, et comment tu t'éloignes ou comment tu te retrouves dans les codes un peu général de la folk?
J'ai jamais été très très musique de genre. J'écoute beaucoup de folk, mais j'ai toujours eu des goûts très éclectiques. Et dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours beaucoup mélangé les choses. C'est pas vraiment nouveau, donc je me suis pas forcément attaché au code. Après, c'est tout un univers visuel aussi qui vient avec, principalement, voire cinématographique, qui me parle dans la folk.
Sur cette EP, sur les morceaux, c'est toi qui poses tous les instruments. C'était une envie ou un besoin de pouvoir maîtriser l'ensemble en fait du processus de composition et de gérer tous les instruments?
J'avais envie de garder la main dessus, et aussi cet essai de concept de tout envoyer dans les amplis, même si j'ai des cordes, mes cordes sont des guitares à l'archet et pas des violons, etc. Essayer de voir ce que ça pourrait donner d'avoir quelque chose d'assez live en gardant un certain nombre d'arrangements. Donc c'est un peu expérimental pour moi. Déjà, une espèce de travail de recherche.
Et ouais, d'ailleurs, sur le live, comment tu l'adaptes? Est-ce que ça te donne une version plus épurée des morceaux par rapport à la version studio, ou tu arrives à boucler des choses, à avoir un résultat assez proche finalement?
Alors, pour l'instant, l'état, c'est j'ai tout ce qui est sur le disque, enfin, sur l'enregistrement, se retrouve en live. J'ai travaillé l'enregistrement pour que tout puisse passer dans les amplis guitare. Donc je joue avec trois amplis, un ampli en lead sur lequel je joue en live, et j'ai deux amplis de chaque côté, deux petits amplis dans lesquels j'envoie des boucles en stéréo, à gauche et à droite.
Par contre, donc, c'est vrai que sur l'album, donc, tu l'as un peu évoqué, donc on retrouve de la guitare, de la basse, que ça soit aussi bien joué avec l'archet, et par contre il n'y a pas de percussion, pas de batterie, c'était vraiment un choix artistique.
Oui. C'est pas un interdit absolu, mais je trouve souvent, et notamment en folk, que dès qu'on applique des batteries, ça a tendance à écraser, et c'est très vite un peu plan-plan, et je voulais éviter ça, et puis évidemment dans la démarche de pouvoir envoyer mes arrangements dans les amplis guitare, la batterie passait pas très bien, tout ce qui est percussif, donc il y a aussi une contrainte technique.
T'as évoqué le fait donc de pouvoir maîtriser un peu les compositions. À côté de ça, vu que tu es dans d'autres formations et que des musiciens, je suppose que le travail collectif te plaît aussi. Comment tu approches les deux? Est-ce que l'un t'intéresse plus que l'autre, ou est-ce que les deux se nourrissent aussi, quoi?
Non, j'ai pas forcément de préférence, quoi. J'aime quand même beaucoup jouer en groupe. C'est un échange, et finalement là, c'est un projet solo qui me permet de peut-être caser des choses plus intimes, et puis de me retrouver un peu seul face à ma démarche, mais c'est plus en un côté, finalement. Le principal reste dans les groupes.
Alors, je sais pas, tu vas peut-être pouvoir me dire dans un premier temps si tu es musicien professionnel ou pas, mais après, dans tous les cas, on est dans une période qui est très particulière, notamment pour la culture et encore plus pour la musique. Comment est-ce que tu l'abordes, le fait qu'on va sûrement pas avoir de concert tout de suite, le fait qu'il n'y ait pas de tournée, le fait qu'il y ait plein de structures qui soient impactées par la situation?
Alors effectivement, moi je suis pas professionnel, donc j'en dépends pas directement. Effectivement, mes collègues le sont pour la plupart, donc ça va impacter les groupes. Ça reste très flou, finalement. On a du mal à vraiment mesurer ce que ça va donner, mais c'est pas forcément très encourageant. Je suppose qu'on trouvera des alternatives ou pas. Non, ça reste très flou, honnêtement. Peut-être on va avoir un retour de certaines formes de système D, ou j'en sais rien. Pour l'instant, c'est vrai que ça reste un peu compliqué de se positionner. Il y a probablement la possibilité de conserver l'habitant aussi, mais ça reste qu'une alternative provisoire, je suppose. Si la démarche est intéressante pour l'intermittence, la scène des musiques actuelles, je sais pas où ça va, très honnêtement.
Et là, pour pour la suite, t'envisages de travailler sur quoi? Vous continuez à échanger avec les autres groupes? Enfin, j'ai vu que vous deviez avoir des dates, notamment avec Ungar Thorsen, bon, qui ont été annulées, mais enfin, tu travailles toujours sur les projets à côté, ou là, t'es plus focalisé sur continuer à faire avancer le projet solo?
Non, je continue à donner la priorité au projet groupe. Après, il faut qu'on ait aussi l'occasion de travailler ensemble. Ça rajoute des soucis logistiques, des types locaux de répétition, etc., qui compliquent un peu l'affaire, mais en tout cas, la priorité reste au groupe.
J'espère qu'on sortira rapidement de ce flou, effectivement. Merci, Guillaume, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Je t'en prie. Merci à toi.
Et on écoute tout de suite le titre In Between Storm, que vous pouvez donc retrouver sur l'EP Ifs and Ives de We've Been There Before.
Let's walk up that gravel drive and meet up with a frail little boy. Golden locks upon a chubby face, carrying kisses in a bag, candid witness to his swollen time. Back in those carefree times, the thumping sound of marching boots seemed far behind, growing knowledge of a global crumbling only gave rise to heroic fantasies that we made. Save the day.
Sur les ondes de Radio Campus Angers, toujours dans le pédalo. Il est maintenant temps d'écouter l'interview qu'a réalisée Alexis en compagnie d'Amandine Portelli, co-créatrice de l'atelier d'art graphique. Je vous laisse écouter ça tout de suite.
Bonjour Amandine, vous avez cofondé avec l'artiste plasticien Mladen Sterbach l'atelier d'art graphique Ouhouhou à Ingrandes-le-Fresne sur Loire en 2017. Vous proposez notamment des ateliers, des formations professionnelles, mais aussi des résidences artistiques. Alors tout d'abord, comment est né ce projet ?
Alors, ce projet est né suite à... L'association, en fait, existe depuis 2009. Et elle a commencé en quittant l'école, enfin 2009, même 2010, 2009-2010. J'ai fini mon cursus des Beaux-Arts d'Angers en 2009. Et à l'issue, on a créé une association et on a monté un atelier de sérigraphie mobile. Et ensuite, c'est par ça que tout a commencé. Ensuite, on a créé un lieu à Denay, la galerie A, où il y avait la presse à gravure et on continue les ateliers mobiles. On a toujours continué les ateliers d'imprimerie, enfin d'avoir cette pratique. Et ensuite, on s'est retrouvé à Ingrandes parce qu'on a voulu avoir un lieu plus grand à nous et pouvoir installer aussi l'atelier de sérigraphie. Et là, on a continué un projet d'expo, etc. Mais on s'est en fait finalement recentré sur l'origine en fait de notre rencontre qui est la gravure, parce qu'on s'est rencontrés avec Mladen aux Beaux-Arts de Sarajevo, à l'Académie des Beaux-Arts de Sarajevo, dans les ateliers d'art graphique, de gravure en particulier.
Justement, pour les auditeurs peut-être moins avertis, qu'entend-on par art graphique ?
Alors, art graphique, peut-être là je suis allée un peu trop loin, mais c'est vrai que art graphique, c'est tout ce qui touche au graphisme, enfin à l'image, et les techniques d'imprimerie en font partie.
Et justement, j'ai présenté en introduction les différentes actions que vous proposez. Est-ce que j'ai oublié des choses ?
Ben, on a des ateliers, effectivement, et en particulier les ateliers mobiles, qui sont pour nous un moyen de co-construire des projets pédagogiques, souvent assez originaux, dans des espaces parfois, enfin pour vraiment très particuliers. Donc on peut passer d'une demande d'une école d'art qui n'a pas ce matériel-là et qui en a besoin pour faire un petit atelier avec par exemple des prépas. On s'est retrouvé aussi à Nanterre dans un collège avec des classes Ulysse, par exemple une classe Ulysse avec voilà des publics ados. Avec le CAUE 92, autour de projets où nous, on vient sur une étape du projet à l'année, ou sinon monter des projets de A à Z, plutôt ponctuels, de découverte. Et je crois que sinon, oui, les ateliers, les stages, chez nous.
Et vous proposez notamment, oui justement, j'allais venir, des résidences artistiques. Pour qui s'adresse-t-elle en fait ? Faut-il avoir une pratique de l'image imprimée ou sont-elles ouvertes à tous les artistes qui travaillent différents médiums ?
Bah alors, elle est ouverte effectivement aux artistes qui ont un projet. Et puis, un projet en sérigraphie ou gravure. Elle ne requiert pas forcément de prérequis, parce que l'idée c'est aussi qu'on propose aux artistes une formation en amont. Une formation professionnelle où ils ouvrent leur droit à la formation professionnelle pour ceux qui n'ont vraiment pas de prérequis, où on fait un système de stage en amont. Et après, comme ça, ils peuvent suivre la résidence de manière un peu plus serein. Donc la formation, c'est l'idéal parce qu'en même temps, ils acquièrent vraiment une compétence. Et voilà, donc on a eu le cas par exemple là sur le site, je suis en même temps branchée sur le site comme ça j'essaie de rien oublier, et on voit un couple, alors c'était notre première résidence, hein, ça fait qu'un an en fait qu'on fait vraiment ce système de résidence de production.
Ah oui, c'est vraiment très jeune.
C'est très jeune et c'est venu, on avait déjà fait des résidences, vu qu'à une période on a fait des expos, on était là-dedans, mais c'est très chronophage et donc on s'est concentré sur qu'est-ce qui est vraiment l'essentiel, hein, pour nous, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment proposer. Et justement, les résidences sont venues comme aussi une réponse à un besoin de l'artiste de produire à un moment donné. Les images imprimées, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est des multiples. Ce sont des multiples. L'artiste peut repartir avec ça. C'est un moyen aussi de diffusion. Autre que les, enfin voilà, l'image imprimée, elle peut se promener aussi. Enfin, c'est une autre manière aussi de montrer son travail, de le vendre aussi. Et puis c'est surtout que voilà, il y a ce besoin aussi de produire et de créer les conditions pour l'artiste de pouvoir à un moment donné être en immersion autour d'un projet particulier sans condition de résultat forcément. Nous, on aime qu'ils partent avec, qu'ils soient vraiment dans la recherche et qu'ils aient produit au sens développer une recherche, mais et aboutir à des images encore mieux pour ceux qui repartent sous le bras avec des images, comment dire, convaincantes pour eux, enfin qui leur convient surtout. Et mais nous, on n'est pas dans l'exigence d'un résultat forcément, et encore moins d'une exposition. En fait, on a évacué cet aspect diffusion pour rester que dans la production et pouvoir accompagner au mieux à la production. Et voilà, pour en revenir à ces artistes qui sont des photographes, ben en fait, ils ont fait une formation de sérigraphie et après, ils ont pu vraiment faire un beau projet de quadrichromie et en sérigraphie dans nos ateliers, parce que aussi, c'est l'idée que la formation et la résidence, c'est un temps où on est là dans la transmission de compétences, enfin de gestes professionnels autour de l'image imprimée, enfin des techniques de l'imprimerie artisanale et artistique, et aussi dans nos ateliers, parce que nous c'est quand même un atelier d'artistes. Donc c'est notre atelier où on décide de d'ouvrir et de faire vivre aussi par d'autres artistes, en donnant la possibilité de se l'approprier. Donc en fait, il faut qu'ils rencontrent le lieu avant de pouvoir travailler avec, parce que c'est chaque atelier a ses conditions intrinsèques, enfin son voilà.
Justement, vous avez un peu répondu, mais donc il n'y a pas vraiment d'exposition de sortie de résidence.
Non, on s'occupe plus de cet aspect-là, diffusion. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que par contre, en fait, l'idée, c'était de se recentrer, mais continuer les partenariats, voire les renforcer et les développer. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un territoire où on s'est rendu compte qu'en termes d'exposition, on n'était pas indispensable. Enfin, il n'y avait pas ce besoin d'exposition parce qu'il y a d'autres lieux, en fait, assez proches. Et puis, on est aussi proche de Nantes. Enfin, on dira qu'il y a toujours besoin de lieux d'exposition, mais le lieu ne s'y prêtait pas forcément, déjà, finalement, conclusion, hein. Et plutôt par des actions dans l'espace public, peut-être, mais pas le lieu n'en s'y prêtait plus. Mais par contre, il y a d'autres lieux avec lesquels on tente de travailler, on essaie d'être en partenariat, et où la possibilité, par exemple, dans ces lieux où les artistes peuvent être sur des doubles résidences, voilà, ou une expo à un moment, et puis vient en résidence pour produire une œuvre ici qui peut lui servir pour l'exposition. Enfin, on réfléchit comme ça des allers-retours à des moyens, la manière dont on peut, comme je dis, ça fait qu'un an, donc là, les partenariats se renforcent, donc avec la Maison Julien Gracq pour l'hébergement. Mais, par exemple, la Maison Julien Gracq peut inviter, elle, des artistes plasticiens à exposer, et pourquoi pas, cet artiste fait aussi une résidence chez nous. Et pareil pour le MAP, c'est-à-dire le jumelage, enfin, ce qui s'est créé, la Montrelais et Anceny, le centre d'art, qui est tout nouveau aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a cette volonté de renforcer des partenariats locaux, sur le territoire. Donc, pareil.
Justement, j'allais y venir. Enfin, alors, vous avez un peu répondu, mais s'installer sur la commune d'Ingrandes-le-Fresne sur Loire, est-ce que c'était une manière, oui, de permettre une ouverture de l'art un peu pour tout le monde, pour la rendre plus accessible? Et je pensais justement au centre d'art de Montrelais, qui est dans une démarche, du coup, un peu similaire, de s'installer un peu dans des lieux qui sont peut-être laissé un peu à l'abandon au niveau de l'art.
Oui, il n'y a pas, on va dire qu'il n'y a pas une activité culturelle qui est concentrée, mais elle est existante quand même, même si elle est un peu éparse dans le territoire, parce qu'on est quand même en face de Mauges-sur-Loire, où il y a l'abbaye, où il y a souvent des expositions, même du FRAC, enfin d'artistes invités par exemple, entre autres, hein, et d'autres programmations, où ils ont un service culturel. Donc en fait, effectivement, on est assez éparpillés. Il y a Segré aussi qui est plus haut, hein, mais en Maine-et-Loire, c'est l'Anjou bleu, mais effectivement, il y a moins de propositions que dans une grande ville. Et oui, en fait, il y a ça aussi, c'est s'installer là où il y a des besoins.
Et pour parler toujours de l'atelier, on en arrive un peu au point Covid-19. Donc on le sait, le milieu de la culture a été fortement touché par l'épidémie. Quel a été l'impact du virus, vous, sur la vie et le fonctionnement de l'atelier?
En fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on a dû reporter les résidences, décaler les dates. On a dû arrêter nos ateliers. On a des contrats qui sont annulés. Enfin, en tout cas, on n'a pas de date de report. On a la formation professionnelle qui s'est annulée. peut-être que voilà. Et voilà, on est, et vu que c'est notre atelier d'artiste, ben on a été confinés, et vu que c'est, en fait c'est chez nous aussi, c'est que c'est une ancienne fleuriste et on a acheté la maison, donc nous on vit au-dessus, donc en fait ce qui est pratique c'est que ben, par contre j'étais confinée dans mon atelier, donc beaucoup travailler, expérimenter, voilà, parce que c'est aussi ça, c'est aussi nous aussi on accueille des artistes, donc il faut qu'on pratique aussi.
En fait, c'est vraiment un lieu de vie artistique où on croise des gens, on vous croise vous, vous avez votre pratique, mais vous croisez aussi d'autres gens qui viennent avec leur pratique. C'est une sorte d'échange mutuel.
Oui, oui, il y a un peu cette idée, mais de manière quand même assez très programmée, parce qu'on voilà, c'est un lieu qui est quand même privé, c'est chez nous. Donc en fait, on a un peu tout cadré pour que ça se passe bien, qu'on n'ait pas l'impression d'être envahi toujours avec soit par un moulin, sinon. Mais du coup, effectivement, il y a cet échange. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous fait qu'on a envie de cette générosité-là entre les artistes, déjà d'échanger, de discuter. Voilà, la rencontre se fait généralement. Parfois, elle se fait pas, et puis bon, on est déçu, mais tant pis, quoi.
Et elle se fait aussi avec les habitants de la commune. Ils sont curieux.
Bah, du coup, on a vu qu'on crée, on propose des stages et des cours à l'année. C'est comme ça qu'on a un peu l'accroche avec les habitants. Après, nous, avec la municipalité et certains autres lieux aussi, on a fait une intervention avec le centre de loisirs, on a pu un petit peu travailler ensemble, enfin voilà, ou avec localement, je dirais que c'est plus, voilà, on va, disons, on a pignon sur rue, sur la rue principale, donc les gens nous voient travailler, quoi qu'il arrive. Après, on n'a pas forcément de lien pour l'instant, enfin en plus on est en plein changement municipal, donc en fait on espère que les choses vont aussi évoluer à ce niveau-là.
Et quels sont un peu les prochains projets pour votre atelier avec la reprise? Est-ce que vous avez, donc il y a, c'est ce que vous disiez, il y a l'appel à résidence. Donc je crois que la date d'inscription, c'est le 20 juin ou vers la fin juin en tout cas.
Oui, 25 juin, j'avais mis là avec le... Ouais, pour que les gens aient
c'est
plus
ça,
le
ouais.
temps.
Et donc vous avez d'autres projets à côté ou c'est un peu le projet principal de cette fin d'année, on va dire, scolaire?
Oui, bah après, je sais pas, parce que c'est on est surtout là les résidences, ouais, de cette fin d'année, enfin ouais, milieu fin d'année, et on organise des formations professionnelles en juillet, la première semaine de juillet, donc c'est du 3 au 8, enfin du quelque chose comme ça, en sérigraphie, une formation professionnelle en sérigraphie, et une, alors c'est du 6 au 10, une formation de sérigraphie, et une du 24 au 28 août. Une formation de gravure, voilà ce qu'on a pour l'instant. Et après, comme ça, ben, on va reprendre les cours, on va essayer de programmer des stages. Et puis après, là, on a fait des devis pour des interventions et on verra ce que ça va donner pour des ateliers mobiles.
Ben, en tout cas, merci beaucoup Amandine d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Alors n'hésitez pas, pour nos auditeurs et auditrices, à aller faire un tour donc sur votre site web qui est ou.fr, je crois, ou .com.
Fr avec l'accent sur le ou, ouais.
Exactement, ne pas oublier.
Ouais.
Ou aussi sur votre page Facebook, où on peut retrouver un peu vos dernières actualités.
Merci.
Et merci à Alexis pour cette interview. Il va déjà être l'heure de refermer ce pédalo. Encore une fois, merci aux invités d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus Angers.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.